Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. Le conflit de loyauté exprime une opposition entre des pôles envers lesquels l'homme a des devoirs. La tension ressentie peut déboucher sur une abstention ou un choix prioritaire d'un devoir au détriment d'un autre. Ainsi en est-il du fraudeur qui, pour échapper à l'impôt, privilégie son intérêt personnel à l'intérêt collectif. Ainsi en est-il du médecin qui invoque une clause de conscience pour refuser un avortement qu'il juge incompatible avec ses convictions, alors qu'hier, on punissait gravement ceux qui le pratiquaient, alors que leur motivation était souvent une empathie pour la détresse des femmes. Ainsi en est-il aussi de l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, juridiquement puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et il a été pourtant qualifié, quelquefois, de délit de solidarité. De plus en plus, la loi et les juges se trouvent face à des tiraillements compréhensibles, même s'ils s'avèrent juridiquement inadmissibles. Le conflit de loyauté trouve donc sa source dans un événement auquel l'humain réagit différemment de ce que son entourage attendait. N'est-ce pas là la preuve d'un manque d'homogénéité d'un groupe ? Ce type de conflit montre que le groupe n'est pas monolithique, que ses membres n'ont pas la même hiérarchie de valeurs. C'est un indicateur de pluralité, un test de la résilience collective. L'éducation nationale, dans sa conception républicaine, n'avait pas seulement pour mission d'instruire. Elle était aussi pensée comme un outil d'unification sociale et politique. Former des citoyens homogènes, partageant une langue, une culture et des valeurs communes. Réduire les divergences de loyauté et les conflits internes. Le service militaire prolongeait cette mission. Il parachevait la formation d'une population disciplinée et loyale à l'État. L'école indiquait les savoirs. Le service militaire imposait la pratique, hiérarchie, obéissance, expérience collective. Ensemble, ils formaient un parcours de socialisation républicaine. Et aujourd'hui, l'enseignement public n'a plus pour mission de formater une homogénéité civique. Il ouvre au contraire des espaces de questionnement. Le doute des valeurs, le doute de soi, la diversité des pratiques, autant de signes d'une mutation pédagogique et sociétale. Le doute est devenu une pédagogie. Non plus transmettre des certitudes, mais apprendre à interroger les normes. Non plus imposer des interdits, mais les contextualiser et parfois les lever. L'école contemporaine expose ses élèves à la pluralité culturelle, religieuse, sociale et sexuelle. Elle prépare à vivre dans une société où les valeurs ne sont pas homogènes, mais discutées. Et les conflits de loyauté se multiplient donc à mesure que la population se diversifie et que les anciens moules prennent trop d'élasticité. L'individu est tiraillé entre État et famille, entre valeurs nationales et identité culturelle, entre intérêt collectif et intérêt personnel. Dès lors, que penser d'un chef militaire qui vient publiquement rappeler des valeurs disparues à une population sourde ? Il se place dans une posture de rappel, de réactivation des valeurs fondatrices. Mais ce geste peut sembler anachronique ou inopérant. Il risque de renforcer le sentiment de décalage entre institutions et citoyens. C'est certes un geste noble, fidélité aux valeurs, mais aussi tragique, incompréhension sociale. En réalité, c'est un aveu d'impuissance. Dans une société multiculturelle et multiraciale, les individus n'ont pas tous la même hiérarchie des valeurs. Les loyautés se fragmentent. Famille, communauté, religion, culture, État. Résultat, les objectifs collectifs, nationaux, militaires, politiques, ne sont pas spontanément partagés. Autrefois, l'école et le service militaire pouvaient enrôler une population dans des objectifs communs. Aujourd'hui, la pluralité rend cette mobilisation plus difficile, voire impossible. Les grands objectifs homogènes ne sont plus universels. Les gouvernements devront en tenir compte. Ils devront adapter le droit, reconnaître la pluralité des loyautés et renoncer aux objectifs inadaptés à la société qu'ils ont contribué à diversifier. Une société plurielle ne se gouverne pas avec des moules anciens. Elle se gouverne avec des objectifs inclusifs, capables de transcender les différences sans les nier. Le conflit de loyauté n'est pas une faiblesse. Il est le miroir d'une société vivante, diverse, perdue et en quête de nouveaux repères. À la semaine prochaine.